quand tu vis dans un monde post-terrorisme, parce que moi j'étais née en 92, quand tu vis dans ce monde de guerre civile, tu sais très bien que c'est pas, y a pas de justice. Tu vis dans ce monde, c'est le monde dans lequel tu vis, où il y a du sang, où les gens se battent, où les uns se disent être plus méritants que les autres, et que eux ils ont la vérité, et de l'autre côté nous on a la vérité, et de l'autre côté il y a des gens qui souffrent. Quand tu vis dans ce monde, tu le sais, il n'y a pas de justice.
Les jeunes Algériens que nous avons rencontrés sont nés dans les années 90. Cette décennie pendant laquelle ils et elles grandissent, c'est surtout celle de la violence. Pour la première fois, en 91, le FLN risque de perdre le pouvoir. Le nouveau parti islamiste, le FIS, Front Islamique du Salut, remporte le premier tour des élections législatives. L'armée décide alors d'interrompre le processus électoral. Des groupes islamistes prennent les armes et attaquent tout ce qui représente l'État, avant de mener des massacres de civils. L'armée répond avec une grande violence, et au milieu de ce chaos, certains en profitent pour régler des comptes. 100 000, voire 200 000 morts. Le bilan exact est toujours inconnu, mais toutes les familles sont touchées.
Madame, monsieur, bonsoir. L'Algérie de nouveau frappée par un terrible carnage la nuit dernière dans un quartier de l'agglomération d'Alger. Un commando a massacré 85 civils selon les autorités, près de 200 selon d'autres sources.
Célia, qui me racontait dans le premier épisode l'histoire de sa grand-mère, avec qui elle vit dans son appartement d'Alger, m'explique aussi qu'elle a grandi à Délis, une petite ville de pêche sur le littoral, jusque-là tranquille, qui finit par sombrer dans la violence.
Célia, 29 ans, Alger. Célia, 29 ans, Dzaïr. Je suis née le 31 mai 1994. J'ai vécu toute ma vie à Délis, donc j'y ai étudié, j'ai passé mon bac. C'était pendant le terrorisme, années 90, c'était tous les jours, vraiment sans exagérer, le son des balles. Le son des balles, ça s'était devenu au bout d'un moment anodin. Parfois, tu t'en rendais même pas compte. Et par moments, il y avait des explosions. On s'y habitue, bizarrement. C'est étrange, tu vois, c'est paradoxal, mais j'avais jamais peur dans le quartier, sauf quand j'entendais le bruit des balles ou des explosions, j'avais peur. Mais en dehors de ça, je me disais pas on va nous sauter dessus ou tu vois. Sauf si j'étais rappelée par exemple par un bruit ou la nuit j'entendais des pas ou un truc. Là, je flippais, je te cache pas. Par exemple, une fois, j'étais dans le salon, j'étais au primaire, et on se réveille le matin, on ouvre la porte, moi, pour partir à l'école et tout, et on trouve des pas de godasses dans l'allée de la maison. Et ça, c'était flippant, tu vois. On savait qu'il était resté un bon moment, et on ne sait toujours pas qui c'est. Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est des terroristes? Tu ne peux jamais savoir, en fait. C'était ça, mon corps. On était très souvent encerclés par la police. Il y avait tout le temps l'armée qui faisait des ratissages et tout. Donc le quartier était rempli de ces trois-là, tu vois, de ces trois entités-là. Donc t'avais tout le monde et ça pouvait être n'importe qui. Mais je me souviens qu'on avait flippé, tu vois. T'es violée dans ton intimité, quoi. Ils rentrent à la maison et c'est flippant. Tu te dis, du coup, ils peuvent faire plus. C'est glaçant. J'ai vécu le tremblement de terre et j'ai vécu une bombe. Et franchement, quand tu sais que c'est un truc naturel, tu sais que dès que ça s'arrête, ça s'arrête. Mais c'est ça qui est flippant, en fait, avec l'explosion, c'est que tu sais pas ce qui va venir après. Est-ce qu'on va commencer à tirer des balles? Est-ce qu'il y en aura une autre? Est-ce qu'il y en aura plein d'autres? C'est plus ça qui est flippant, je crois. Ça a été toute mon enfance, quoi. Moi, personnellement, il ne m'est jamais rien arrivé. Mais déjà, tu entends plein d'histoires. Et même mon père, déjà, a dû faire face à ça. Il faisait la route littorale Tixirt Dedis, celle-là, c'était vraiment le point rouge pendant des années et des années. Au bout d'un moment, ils ont fermé carrément la route parce que c'était trop dangereux. Il y a un point qui me fait flipper jusqu'à présent, il s'appelle Oued Kouenine. Il y a eu tellement de faux barrages à ce point-là qu'à chaque fois que je passe là-bas, je flippe. Même si c'est plus pareil, mais je flippe quand même. Tu vois, ça reste ancré. Et même si moi, j'ai rien vu, mais depuis que je suis toute petite, quand on fait la route, à chaque fois, toujours celui qui conduit, soit ma tante, soit mon père, ils disent « Ah, ici, il y a eu des massacres. » Tu vois, ça reste ancré dans la mémoire. Ces lieux-là, ils sont tachés. Et tu sens que... Il y a de la violence, même dans, tu vois, dans les paroles des gens. Par exemple, une fois je marchais dans la rue, j'étais habillée normalement, c'est juste que je porte pas le voile. Et un gars, il est passé, il m'a dit « Si t'étais ma sœur, je t'aurais égorgée. » Lukamani dbahtek. Tu vois, cette violence, elle est restée bien, bien plus longtemps, du moins là où j'ai vécu, c'est pesant. J'ai senti que ça m'avait vraiment pesé et je savais que c'était dû à ces années-là. Parce que quand mes parents me parlent de Dedis avant cette période-là, c'était très bien. C'était une petite ville côtière, magnifique, où c'était vraiment une ville super, quoi. Mais cette décennie-là dont on parle, elle a vraiment métamorphosé la ville pour des années et des années à venir encore, jusqu'à présent, tu vois. Il y a eu un avant et un après. Tu sens cette déchirure et beaucoup de gens ont quitté la ville, énormément de gens. Les habitants de Dedis, ils sont presque plus là. Et vu que mes parents nous élevaient dans cette période-là, tu vois, et ils avaient tout le temps peur... Donc nous, là, on a tout le temps peur. Et même quand je vais ailleurs, j'ai toujours des réflexes qui reviennent. D'ailleurs, j'ai des amis qui me disent « Mais Célia, mais qu'est-ce que je suis désolée, je suis conditionnée à avoir peur tout le temps, même quand il n'y a pas de danger. » C'est un combat au quotidien pour essayer d'avoir un peu d'énergie pour pouvoir sortir de la maison et aller faire tes études. Et ça te demande mais une tonne d'énergie. Et quand t'es petit, tu comprends pas ce genre de truc, tu vois. Mais t'es quand même tout le temps persécuté par des choses. Soit des mots violents, soit des bruits violents, soit... Tout ça, c'est beaucoup pour un enfant. Donc ça t'enlève beaucoup de ton énergie et ça te fragilise. Donc là, en ce moment, je suis plus fragile que ce que j'aurais été s'il n'y avait pas eu ça. Ça prend plus de temps et d'énergie pour te reconstruire et combler toutes les brèches et se défaire de ces mécanismes de peur, surtout, et d'angoisse. Mais je sais que ça a ancré en moi une angoisse qui ne partira jamais.
Pour moi, l'angoisse dans les années 90, c'est celle de ma mère, lorsque ma tante prenait la route pour aller voir ma grand-mère dans les Aurès. Depuis la France, je me souviens de ma mère plantée à côté du téléphone, à attendre un appel de ma tante qui lui dise enfin ces simples mots « Je suis bien arrivée ».
C'est étrange, tu vois, c'est paradoxal, mais on s'y habitue.
Moi, à l'époque, comme j'étais enfant, on ne m'a pas expliqué ce qui se passait. Et à Célia non plus. Les adultes n'ont pas voulu lui en parler. On raconte rarement les violences en famille. Un silence sur la décennie noire enrobe toute la société algérienne. Et pour cause. Il est même inscrit dans une charte de la réconciliation et des amnisties, des textes de loi qui empêchent que justice soit rendue et que la parole se libère, par peur de raviver les tensions. De l'autre côté de la mer, à Marseille, Dounia, elle, aimerait bien qu'on lui raconte, justement. Elle est née en 2002 et n'a pas vécu les années 90. Accompagnée de Paul, elle part interroger son père pour qu'il lui explique comment le pays a basculé du rêve socialiste des années 70 à la guerre civile des années 90.
Salut. Salut. Ça va bien?
Merci.
Asseyez-vous. Marhaba. Marhaba.
Du coup, on discutait tout à l'heure avec Paul et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que je connaissais pas, en tout cas pas assez bien. C'était quoi pour toi de grandir dans les années 70 en Algérie?
Pour moi, les années 70, j'étais très jeune quand même. Je suis né en 63, donc j'avais entre, disons, 10 et 15 ans, 16 ans. C'était une Algérie nouvelle, quelque chose qui naissait, et nous, on naissait au milieu de ce quelque chose. Ça nous était dit, redit, à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les cafés. C'était une Algérie dite socialiste, l'Algérie des rêves du tiers-monde, l'Algérie révolutionnaire, l'Algérie... Enfin voilà, tout ça. Il y avait un engouement, un entrain, où qu'on puisse aller pour la construction d'un nouveau pays. Voilà, donc moi, ma génération, Dounia, ben, on a... pu bénéficier de l'école publique, de transports gratuits pour les élèves que nous étions, de cantines gratuites. Voilà ce qu'était l'Algérie à l'époque. Une belle jeunesse, de belles années 70, comme sur un nuage, avant que la pluie ne tombe et qu'on se fracasse la tête.
Et après, du coup, en 81, qu'est-ce qui a fait que tu quittes cette Algérie des années socialistes et des révolutions pour venir en France ?
Des pseudos années socialistes. Parce que bah, le socialisme promet de belles choses. Et en cette Algérie-là, bah, c'était un socialisme spécifique, le socialisme de l'Algérie de cette époque-là. Et bah, il y avait des gens dans les prisons, des représentants ou des membres de l'opposition qui avaient été exilés, d'autres assassinés à l'étranger. Non, le socialisme, c'est pas la privation des peuples de leur liberté, c'est pas la privation des peuples d'une partie de leur identité et de leur culture, c'est pas la fondation d'un État sur la haine des autres. Le socialisme, c'est pas ça. Donc, mon père a décidé qu'on revienne en France, à un âge où c'était intéressant d'aller voir ailleurs. Donc, on a pris le bateau comme d'autres avaient pris le bateau et on est arrivé un 7 mars à Marseille. Ensuite, on a pris le train de nuit, on est arrivé un 8 mars où il pleuvait à Paris.
Et je t'ai demandé, c'était quoi de grandir dans les années 70 en Algérie? C'est quoi de grandir en France à 18 ans presque, dans les années 80?
Ce fut un tranquille atterrissage. Première chose, ouais, la liberté. Ouais, c'était une forme de liberté que je ne connaissais pas encore en Algérie. Mais en France, voilà, tu sors et tu manifestes pour ce à quoi tu crois. C'est la chose, oui, la liberté de dire, quoi. D'exister.
T'es arrivé en France, c'était la liberté. Mais être un jeune arabe en France, dans les années 80, c'était peut-être autre chose aussi.
Ouais, ce serait faux de laisser croire que ce n'était que la liberté, en particulier quand on s'appelle Hakim Mohamed. Voilà. Et qu'en plus, on arrive de là-bas avec un accent et des fois des R qui roulent. À certains moments, ouais, c'était pas facile. Je me rappelle, j'ai travaillé à un moment comme serveur, par exemple, dans une catégorie... de la vieille France, je dirais. Et c'était pas mal. Ouais, l'arabe, ramène-nous ci. Et oui, le bico, ramène-nous ça, quoi. Il s'agit pas de pleurer sur soi-même, mais c'est aussi ça, avoir 18, 20 ans et de s'appeler Hakim Mohamed.
Et du coup, après ces 10 années en France, t'es retourné en Algérie? Pourquoi? Comment?
Ouais. Bah, je suis arrivé le 8 mars 81 et je suis reparti en bateau vers Alger où j'ai débarqué le 22 novembre 91. Voilà. Je crois que j'avais fait le tour un peu de certaines questions qui étaient importantes pour moi en France et que j'avais besoin d'aller répondre à certaines questions qui étaient importantes pour moi et qui se posaient en Algérie. Je venais de passer une dizaine d'années en France, j'y ai en partie étudié, j'y ai pas mal travaillé et puis j'y ai surtout milité. Donc ça m'a amené sur les luttes antiracistes, la montée des inégalités, la montée du Front National à l'époque. Et à un moment, arrive la période de 1988, qui est un moment très important pour l'Algérie, donc pour moi et donc pour la suite de ta question, où se déclenche un mouvement populaire, particulièrement mené par des jeunes. Voilà, donc ce mouvement d'octobre 88 a obligé le pouvoir de l'époque à ouvrir un processus démocratique graduel dans lequel devait rentrer l'Algérie. Les partis politiques qui naissent, une presse libre, une nouvelle Algérie, quoi. Une nouvelle Algérie, bouillonnement démocratique. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et au lieu de le soutenir de 2000 bornes plus loin... Bah, je vais aller le vivre, le suivre de l'intérieur et essayer de voir. J'arrête de travailler, je fais mes valises, je les prends et je refais de nouveau le voyage vers l'Algérie avec un bateau. J'arrive dans une Algérie d'ébullition démocratique entre 88 et 92 qui avait fait vivre à l'Algérie aux Algériens et aux Algériennes, y compris sur des confrontations féministes, égalitaires, etc. Trois magnifiques belles années et... Malheureusement, ce rêve, ces trois ans de rêve, se finissent, encore une fois, par un cauchemar. L'armée à l'époque, qui dirige le pays sous costume civil, pour des raisons de survie de son régime, arrête les élections. Entre les deux tours, les élections des législatives qui furent gagnées dans un premier temps et au premier tour par les islamistes, qui se conformaient au processus démocratique, mais malgré tout, l'armée algérienne annonce au monde qu'elle va le sauver du péril vert et des islamistes et qu'il n'y aura pas un deuxième Iran au sud de l'Europe et organise un coup d'État contre la démocratie et arrête le processus démocratique et on rentre, malheureusement, dans une « douamet el-unf », j'aime ce terme en arabe, « douamet el-unf », la spirale de la violence. Certains l'appellent décennie noire, l'autre l'appelle la décennie rouge, l'autre l'appelle je ne sais pas quoi, ou l'autre l'appelle bataille, la lutte contre le terrorisme. Et il faut appeler les choses par leur nom, c'était une guerre civile d'une partie de l'Algérie contre une autre partie de l'Algérie.
Ce qui pousse Hakim à retourner en Algérie, c'est l'espoir qui arrive à la fin des années 80. En octobre 88, les jeunes des quartiers populaires se révoltent pour réclamer des conditions de vie dignes et un espace de liberté. Mais les chars rentrent dans Alger. La répression est sévère. 500 morts et des milliers de manifestants arrêtés et torturés. Pour autant, la pression est trop forte et le gouvernement organise un référendum pour changer la constitution. Elle autorise désormais la création de partis politiques et de journaux privés. C'est la fin de l'ère du parti unique. Or, il y en a un qui séduit particulièrement, le Front islamique du salut, le FIS. Il est vu par beaucoup à l'époque comme l'opposition au FLN qui gouverne depuis 62. Il remporte d'emblée les premières élections municipales, puis arrive en tête du premier tour des législatives. Cette ascension fulgurante n'est pas du goût de l'armée, qui préfère stopper net le processus électoral.
En Algérie, l'escalade de la violence et de la répression. Hier, le président du Haut Comité d'État, Mohamed Boudiaf, a décidé l'état d'urgence en raison des événements de ces derniers jours.
Lorsque l'armée algérienne interrompt les élections, certains membres du FIS décident de prendre les armes. Les groupes terroristes s'attaquent aux militaires, aux fonctionnaires et même aux civils. Trois ans après le nouveau souffle permis par 88, le pays plonge alors dans une spirale de violence, jusqu'aux années 2000. Les familles algériennes ont appris à composer au quotidien avec la possibilité d'être assassinées à tout moment. C'est ce que Hakim raconte à Dounia, sa fille.
Je partais, j'avais une chaîne en or avec une main de Fatima. Et il fallait pas oublier ce genre de truc. Je l'enlève, je la laisse à la maison. Tu vois? Il vaut mieux que j'y pense. Ou ta maman me faisait penser à enlever la chaîne en or parce que les islamistes disent que l'or ne peut être porté par les hommes et quand ils le font, ils ne sont pas des hommes et donc ils doivent être égorgés. Donc histoire de ne pas être égorgé, moi j'ai enlevé la chaîne quoi. Quand t'arrives à un barrage que tu penses être militaire, tu te dis une fraction de seconde dans la tête, est-ce que c'est pas les autres? Parce qu'il y avait des barrages militaires, il y avait des vrais faux barrages tenus par les islamistes, il y avait les vrais faux vrais barrages tenus par certains qui pouvaient être du monde militaire, mais qui agissaient dans l'ombre, voilà. Donc tu sais jamais sur qui tu tombes. Et donc des choses nous sont arrivées, oui, d'être mis à genoux, de devoir dire des choses. De devoir dire des choses auxquelles on ne croyait pas ou qu'on ne pouvait pas dire. Mais avec un flingue sur la tempe, tu le dis, quoi. Et j'avais pas encore mes enfants. Alors, si j'avais mes enfants, je l'aurais dit tout de suite. Ouais. Voilà ce qui est arrivé un petit peu à ton père. Et moi, j'en suis sorti vivant. Moi, j'en suis sorti vivant. C'est pas le cas de 200 000 autres personnes, quoi. La guerre civile, c'est la peur. Comment tu vis avec la peur? Eh ben, t'apprends à vivre avec la peur. Et tu n'en parles pas. T'en parles pas. Parce que tout le monde a peur. La peur pour soi et la peur pour les siens. Je sais pas, t'attends quoi. Tu attends. T'attends la fin. Parce qu'une guerre civile qui dure aussi longtemps, 10 ans, y a beaucoup de gens qui meurent quoi. Voilà. La guerre civile, c'est des périodes autant cauchemardesques, mais c'est pas juste parce que je veux y voir, mais ça existe, y compris des moments de lumière humaine. Par exemple, quand on partait de chez soi, on s'embrassait en quittant la maison comme si on n'allait pas revenir. On se disait pas, ouais, adieu, ou je sais pas quoi. Mais il y avait des au revoir qui voulaient dire, au cas où je ne revienne pas, au revoir pour de vrai, quoi. Donc, c'est des moments de vrai cauchemar, permanents. Mais il y a avec aussi de magnifiques moments. Tu te dis, ça vaut le coup, l'humanité vaut le coup. Puis j'y ai surtout rencontré ta maman, et puis j'y ai surtout, avec elle, fait deux magnifiques enfants, dont toi.
Moi, j'ai pas vécu la guerre civile, je suis venue après.
Très bien, t'as bien fait.
Mais dans les années 2000, on a balayé ça sous le tapis comme si ça n'a jamais existé. Et on n'en parle pas, on ne le traite pas. Alors que c'est quand même un pays, ou en tout cas une période où c'est un même pays, des gens s'entretuent. Donc il y a quand même une, entre guillemets, une thérapie nationale qui doit être faite à un moment ou à un autre. Et c'est pas le cas.
Ouais. Parce que les gens, entre autres choses, rendaient comme responsable de ce qu'on venait de vivre la démocratie, le multipartisme. Ils disaient, quand on était dans le temps de Boumediene, il y avait un seul parti, une seule organisation de jeunesse, on a vécu la dictature, mais on n'a pas vécu la guerre civile. Donc, autant pour moi, ça a été des années qui ont suivi la guerre civile, où on a pu se reposer, se poser. Autant, politiquement, c'est devenu très, très difficile. ça redevenait, dans le fond, un peu le retour au parti unique. C'était Bouteflika, ensuite Bouteflika, et après Bouteflika, et quand il n'y avait plus de Bouteflika, c'était du Bouteflika. Les gens donc ont laissé gouverner Bouteflika et ses équipes. Les gens voulaient vivre, voulaient consommer, voulaient voyager. Et ça se comprend, après avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Donc, autant on a recommencé à consommer ce que nous amenait l'économie dite de marché, autant on y perdait en acquis démocratique et en liberté.
Mais justement, c'est après la guerre civile qu'ils ont placé Boutef comme grand héros de la guerre civile et qui lui ont créé cette légitimité-là de rester jusqu'en 2019 et son potentiel cinquième mandat.
Ouais, on a fini par être, à partir du troisième, fin du troisième mandat, présidé par une momie, quoi. Et quand on voyait cette momie nous représenter à la télé, on avait honte, quoi. La Chouma. On a fait tout ça pour avoir ça. Donc, Wassala Seydou Zouba, patience à des limites, et le peuple algérien avec sa fierté, a commencé à sortir, je pense que tu te rappelles de cette période,
oui.
Dans les rues à partir du 16 février dans un premier temps, à Kharrata, et ensuite partout, dans toute l'Algérie, un vendredi 22 février, tu te rappelles?
Oui, je me rappelle, au début on voyait des vidéos des gens qui décrochaient des cadres, parce que c'est ça qui était Bouteflika, c'était ouais. Des cadres. C'était une représentation, c'était une photo, c'était une image. Et donc ouais, première matérialisation de la colère, d'enlever ces cadres-là et de les jeter dans les écoles, dans les mairies. C'était ça au début, le 22 février.
Absolument. Très, très juste rappel. Et je me rappelle que c'était les premières images. Le cadre enlevé de l'intérieur des mairies, etc., et des administrations, et jeté, et écrasé. Et je me rappelle très, très bien. J'avais eu très, très peur. Ça me rappelait la Libye. Ce qui a suivi par la suite, une révolution dévoyée, qui a mal tourné. J'avais eu très, très peur.
Là, tu m'avais dit, là, ça sent la Libye, je m'en rappelle. Et c'était au début, justement, une crainte de comment ça va finir, tout ça, parce que les, entre guillemets, habitudes que le peuple avait commencé à prendre, c'était d'essayer de manifester, de lutter, de se révolter. Mais à la fin, comme tu disais, ça leur tombe sur la gueule, donc c'était un peu ça au début, les inquiétudes qu'il y avait.
Ouais, c'est vrai que c'est pas par hasard que moi j'ai pensé ça, parce que j'avais vécu tous les traumatismes que j'ai pu vivre et qu'ont pu vivre mes générations. Et donc, au début, on s'est dit, ça commence mal, ça va mal se passer et ça finira mal, presque comme d'habitude.
Ouais, mais après, Selmi a vaincu, et une semaine après, on est allé à Alger, le 1er mars, pour le deuxième vendredi. Et notre première marche, on était tous ensemble, on rêvait, et on faisait plus que rêver, on faisait en sorte que le rêve soit vrai.
Moi, pour moi, c'était le premier vendredi à tes côtés, avec ta petite pancarte, rappelle-toi. Il y avait marqué en arabe, « Silah il-Wahid l-Amali, ma seule arme et mon espoir ». C'était ce rêve auquel pour te dire la vérité, je ne croyais presque plus. Il nous tombe sur la tête sans nous faire mal. Marhaba, bienvenue. Inoubliable, inoubliable. Même si à la fin ça a donné ce que ça a donné, mais ce serait à vivre tout de suite à l'instant je signe. En dehors de la naissance de mes enfants, si je devais choisir un autre moment qui représente le bonheur, c'est le Hirak, ouais. Le bonheur pour moi, c'est le Hirak. Ouais.
Ouais, c'était beau. C'était dur, mais beau. Durement beau.
Le Hirak est la fin de la période Bouteflika. Ce président élu pour mettre un terme à la violence des années 90 brigue pas moins de 4 mandats. En 2019, il veut être candidat pour un cinquième mandat, alors qu'il est visiblement très affaibli. les gens sortent manifester et se mobilisent en nombre, comme jamais depuis l'indépendance. Les manifestations prennent une telle ampleur que des Algériens qui vivent à l'étranger, comme Dounia, prennent l'avion pour manifester le week-end, avant de rentrer le lundi matin. L'effervescence et la joie sont immenses. Mais si le Irak évoque également à Dounia quelque chose de dur, c'est parce que Hakim a ensuite été arrêté et emprisonné. L'association Rassemblement Action Jeunesse, le RAJ, qu'il avait participé à créer pour donner aux jeunes des perspectives et un espoir pendant la décennie noire, a été dissoute.
Mais ce serait à vivre tout de suite à l'instant je signe. Silah al-Wahid, l'Amali. Ma seule arme et mon espoir.
À la fin de la première année du Irak, au moins 150 personnes sont incarcérées pour leur participation aux manifestations, comme Wafi. Il a plongé dans la révolution avant de devoir fuir le pays. Nous le retrouvons dans le prochain épisode, Réfugié à Paris.
Algérienne.